VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Dans le dialogue des religions, ce mercredi 11 mars 2015, une question, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en Europe? Idrissa Seydou Dia et ses invités vont y répondre et vous êtes conviés à participer à l'émission, mais tout d'abord, l'actualité. On commence par le Gabon. La grève des enseignants s'est poursuivie aujourd'hui malgré les appels du président Ali Bongo à la reprise des cours. Le chef de l'État gabonais affirme avoir accédé aux principales revendications des enseignants. La plupart des écoles et lycées de la capitale étaient pourtant déserts ce mercredi, selon des journalistes de l'AFP. Les fonctionnaires sont entrés en grève depuis février pour réclamer des revalorisations salariales. Au Tchad, des échauffourées ont opposé des élèves et les forces de l'ordre. Les étudiants manifestaient contre le port du casque imposé aux motocyclistes, des manifestations qui ont viré au drame. Il y aurait un mort parmi les manifestants, plusieurs blessés. Le gouvernement a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des écoles et universités dans la capitale du Tchad, Bagassikoura.
La manifestation des élèves a fait au moins un mort lundi, selon le gouvernement tchadien. Depuis le 1er mars, un arrêté du ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire oblige les motocyclistes à porter un casque. Les étudiants qui dénoncent l'augmentation du prix des casques depuis l'entrée en vigueur de cette mesure sont descendus dans la rue lundi pour manifester. Selon l'AFP, la manifestation a été violente, les élèves ayant incendié des véhicules et bloqué l'accès de plusieurs établissements scolaires de la capitale. La manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui ont notamment fait usage de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga, un jeune est mort au cours de ces échauffourées. Mais des sources hospitalières qui citent l'AFP ont de leur côté fait état de 3 morts et plusieurs blessés.
En République centrafricaine, un membre de l'ex-coalition Séléka et ancien ministre de Michel Diotodia, le général Mahamat Ousmane Mahamat, a été arrêté hier à Bangui et placé en garde à vue au service de recherche et d'investigation. Beaucoup d'armes et de munitions de guerre ont été trouvées en sa possession au moment de son arrestation. La Tanzanie en deuil aujourd'hui. Plus de 40 personnes sont mortes dans le centre du pays dans la collision entre un bus et un camion-conteneur. Une annonce de la présidence tanzanienne. Le bus parti de Mbeya se rendait à Dar es Salaam, à quelques 800 km à l'est. Le camion venait en sens inverse. Il s'agit là de l'accident le plus grave en Tanzanie depuis 2006.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
36 localités ont été reprises au groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis le début d'une offensive régionale le mois dernier. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le gouvernement nigérian. Selon un porte-parole cité par l'AFP, ces succès sont dus aux coopérations et alliances avec les États voisins Cameroun, Tchad et Niger. Une réunion de la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali a débuté aujourd'hui à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. Objectif, se prononcer sur l'accord de paix d'Alger déjà paraffé par le gouvernement. Indique l'AFP qui cite des participants donc à cette rencontre. Au Mali toujours, la famille de deux mineurs arabes lynchés à mort à Gao, dans le nord du pays, a reçu les condoléances présentées en personne par le premier ministre. Les deux jeunes, je vous le rappelle, ont été tués il y a 3 jours. On les avait pris pour des poseurs de bombes. Malgré les condoléances, ils ne sont pas encore officiellement lavés de tout soupçon. En Guinée, le pouvoir et l'opposition guinéenne affichaient aujourd'hui leur désaccord au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Le premier tour de la présidentielle est fixée au 11 octobre 2015. Quant aux locales, elles seront organisées fin mars 2016. L'opposition ne voit pas cela d'un bon œil et elle qui exigeait l'organisation des locales avant la présidentielle. Nous ne pouvons pas accepter qu'une période supplémentaire d'une année soit ajoutée au mandat déjà illégal et illégitime des délégations spéciales, a indiqué à l'agence France Presse son porte-parole Aboubacar Sylla.
Des combats difficiles, mais les troupes irakiennes ont pu pénétrer.
Voilà, on poursuit ce journal. Jacques est venu un peu plus tôt. On va donc en Irak. Après une offensive qui a duré 10 jours, l'armée irakienne est enfin à Tikrit, une étape importante, bien évidemment, pour Bagdad, qui avait, rappelons-le, perdu la ville en juin dernier. L'on peut très bien imaginer l'euphorie aujourd'hui parmi les troupes après cette première victoire. 30 000 hommes ont pris part à cette campagne militaire. On retrouve maintenant Jacques Aristide.
Des combats difficiles, mais les troupes irakiennes ont pu pénétrer dans le quartier de Qadisiyya et ont pris le contrôle de l'hôpital militaire de Tikrit, d'après un haut gradé des forces gouvernementales. Après avoir tenté d'entrer dans la ville à maintes reprises ces derniers jours, l'avancée des soldats irakiens aux côtés des unités de mobilisation populaire, notamment composées de combattants chiites, est lente, d'après le même militaire, car le terrain, dit-il, est piégé avec des bombes placées autour de la ville et des snipers de l'État islamique. Environ 30 000 soldats sont déployés dans le cadre de cette offensive de l'armée irakienne, laquelle est encadrée par des conseillers iraniens. Ailleurs dans le pays, l'État islamique n'en démord pas. Le groupe a mené ce même mercredi une attaque coordonnée à Ramadi dans l'ouest de l'Irak avec 7 attentats suicides à la voiture piégée. Au moins 10 personnes ont été tuées et 30 blessées selon les premiers bilans. Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, est l'une des bases de la fulgurante percée des djihadistes en Irak. Depuis des mois, les troupes irakiennes tentent de les en déloger mais n'y sont pas encore totalement parvenues.
Merci Jacques. Sur un autre front, l'État islamique a lancé une offensive majeure aujourd'hui pour tenter de reconquérir la ville kurde de Ras al-Ain, située dans le nord de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie, selon une ONG citée par l'agence France Presse. Et puis sachez que le secrétaire d'État américain John Kerry a pressé le Congrès aujourd'hui d'autoriser formellement le président Barack Obama à mener la guerre contre ce groupe en Irak et en Syrie. La résolution va donner au président un mandat clair pour conduire un conflit armé contre l'organisation. Depuis 6 mois, de nombreux élus démocrates et républicains contestent une guerre illégale et exhortent le Congrès donc à assumer son rôle constitutionnel de déclarer les guerres. Et puis cette nouvelle accusation contre le régime de Bachar al-Assad, une ONG basée à New York accuse ses troupes de crimes contre l'humanité pour avoir tué 610 médecins et travailleurs médicaux depuis le début du conflit en 2011. Ce rapport rédigé par Physicians for Human Rights a été présenté aux Nations Unies ce matin, a souligné ce chiffre particulièrement alarmant. 139 des 610 travailleurs médicaux tués ont été torturés ou exécutés. Et Washington souhaite renforcer sa position en Ukraine. Les États-Unis vont bientôt livrer des drones d'observation et des véhicules de transport Humvee pour aider le pays à faire face à l'insurrection séparatiste dans l'Est. Une annonce faite par un responsable américain. Ici même aux États-Unis, l'État d'Utah, pourrait devenir le seul État américain à recourir de nouveau à des pelotons d'exécution pour les condamner à mort après que ses sénateurs ont approuvé hier un projet de loi en ce sens. Pourquoi, on pourrait se le demander? Eh bien, les produits d'injection létale utilisés habituellement seraient souvent en rupture de stock. Je ne vous en dis pas plus. Camille Grodidi.
Le texte qui a été approuvé par le Sénat de l'État doit être transmis au gouverneur de l'État, Gary Herbert, qui devra le promulguer. Les partisans de la mesure affirment que la mort par peloton d'exécution est une façon plus humaine d'exécuter un condamné à mort qu'une injection létale, d'autant que les États-Unis souffrent de pénurie des médicaments nécessaires à ces injections. Récemment, plusieurs détenus d'État tels que l'Oklahoma, l'Ohio ou encore l'Arizona ont subi des tentatives d'exécution douloureuses suite à des injections létales bâclées à cause notamment de nouvelles combinaisons de médicaments. Mais les critiques font valoir que la méthode du peloton d'exécution est un pas en arrière qui rappelle le Far West.
Merci Camille. Toujours aux États-Unis, en Floride plus précisément, les équipes de recherche ont retrouvé des restes humains sur les lieux de l'accident d'un hélicoptère militaire. 7 Marines et 4 membres d'équipage étaient à bord. L'armée avait perdu la trace du Black Hawk près d'une base militaire plongée dans un épais brouillard. Et le Liban, toujours sans président, le Parlement libanais a échoué pour la 20e fois à élire son chef d'État. Le fauteuil est vacant depuis plus de 9 mois en cause des divisions entre les deux principaux camps politiques. Le mandat de l'ex-président Michel Sleiman a expiré le 25 mai 2014. Faute de président, c'est le gouvernement présidé par Tamam Salam qui est responsable de tous les pouvoirs exécutifs. Prochaine escale suivie en Afrique, c'est avec Idrissa Seydou Dia et c'est le dialogue des religions.